Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Yves Calvi.
7h46, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin Jean-Louis Debray à l'occasion de la parution de son livre. Aujourd'hui même chez Robert Laffont, tu le raconteras plus tard.
Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio, Jean-Louis Debray, bonjour.
Bonjour.
D'abord ce titre, tu le raconteras plus tard, c'est Jacques Chirac qui vous demande de différer oui. vos confidences.
Non, c'est sûr que je lui présente le manuscrit, ce qui me semble tout à fait normal puisqu'il est un des acteurs principaux. Et je lui présente le manuscrit quand je quitte l'Assemblée nationale, la présidence de l'Assemblée, pour aller à la présidence du Conseil. Mmh. Il regarde, je lui ai souligné en jaune les passages où je parle de lui et je mets dans sa bouche un certain nombre de confidences. Et il me dit, ça c'est parfait, mais tu raconteras plus tard. 10 ans sont passés et je le raconte maintenant.
Alors vous décrivez 12 ans de droite, vue de l'intérieur, à vos différents postes d'observation, 95-2007. On va y venir, mais d'abord, est-ce que la droite de 2017 ressemble à celle que vous décrivez justement ?
Pas du tout. D'abord parce qu'il y avait... à l'époque, un patron qui s'appelait Jacques Chirac. Deuxièmement, que ce patron avait tout de suite mis une ligne à ne pas dépasser, c'est la ligne vers l'extrême droite. Et d'ailleurs, lors des élections régionales à cette époque-là, il a pris la parole publiquement pour dire
en il n'y aura jamais, vous le racontez, 98,
ouais. il n'y aura jamais d'accord avec l'extrême droite. Et donc les choses sont claires.
Et donc elles ne le sont plus.
Aujourd'hui, non. Moi qui regarde ça de loin, mais très attentivement, je trouve qu'il y a des tentatives qu'on connaît dans toute notre histoire, puisque si l'histoire de la République et l'histoire de la droite, c'est toujours un espoir d'aller, comme disait la gauche, jamais d'ennemi à gauche, à droite, on dit jamais d'ennemi à droite. Eh bien, on retrouve les mêmes choses, mais encore une fois, à l'époque, il y avait un patron qui fixait, et ce patron, il était... parfois contesté, mais il était admis par tout le monde.
On recevait Laurent Wauquiez hier matin à votre place qui pourrait devenir le patron de Les Républicains en décembre. Il se réclame du gaullisme social. Vous lui reconnaissez cette légitimité, cette filiation ?
Je suis, même moi qui suis élevé dans le gaullisme, je n'ose pas me dire gaulliste. Car le gaullisme, hélas, est parti avec le général de Gaulle et avec ses compagnons. Le gaullisme est une tradition dans le courant politique française, mais je pense qu'on ne doit pas se réclamer du gaullisme.
Mais parce que c'était le général de Gaulle et que c'est une figure intouchable, ou parce qu'il n'y a rien à voir entre la ligne sociale, libéralo-sociale du général de Gaulle et celle que défend aujourd'hui Laurent Wauquiez ?
D'abord, je ne connais pas les lignes défendues aujourd'hui, mais en réalité, ce sont surtout des lignes toujours assez courbes. Mais il y a toujours eu, dans le courant de la droite française, à la fois une tradition libérale et une tradition sociale. Il y avait les gaullistes sociaux, mais de Gaulle faisait la synthèse. Là, on ne fait pas la synthèse.
Il ne fait pas la synthèse parce que pour revenir à Laurent Wauquiez, il va quand même succéder à Jacques Chirac, que vous avez connu. Vous-même, vous avez eu des responsabilités d'encadrement, de direction au RPR de l'époque. Donc vous avez été de ceux qui dirigeaient le grand parti de droite. Est-ce que Laurent Wauquiez est un héritier de ces patrons-là?
Écoutez, en tout cas, c'est pas moi le père.
Oui, c'est une famille extrêmement dissolue.
Chaque époque est nouvelle. Je pense qu'il est ce qu'il est et qu'il n'a pas à revendiquer d'être le fils spirituel d'un tel ou un tel. Laissons les discours parler à la place des professions de foi.
Encore un mot, le feuilleton de l'exclusion des députés LR constructifs, c'est du sectarisme ou c'est de la clarification?
Mais écoutez, moi je ne comprends pas un parti qui veut rassembler et qui exclut. Il y avait une solution beaucoup plus simple, c'est de ne rien dire. Est-ce que celles et ceux qui sont partis vers les constructifs auraient repris leur adhésion aux Républicains? Non. Donc il fallait gérer ça dans la douceur et non pas donner le sentiment qu'on exclut. Et d'ailleurs, ce n'est pas dans la tradition, puisque vous avez pris le mot gaulliste, parce que je me souviens très bien qu'il y a une certaine époque où il y avait... ce qu'on appelait des dissidents, et on ne les a pas renvoyés. C'est au président du mouvement, au secrétaire général, d'essayer de rassembler. Et puis, aujourd'hui, le grand problème, permettez-moi de vous le dire, c'est qu'on ne comprend plus le discours de la droite. Nous avons aujourd'hui à redresser la France. Est-ce que la droite républicaine et est-ce que la gauche républicaine sont en mesure de donner des leçons ? Non. Qu'est-ce qui nous importe ? C'est que la France, dans un an, se remette à marcher. À ce moment-là, ils pourront, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine des investissements, dire si c'est bien ou si c'est mal. Mais laissons les choses se faire.
Ouais. Vous allez même plus loin, vous dites qu'il ne faut pas espérer qu'Emmanuel Macron échoue.
Je trouve fantastique cette classe politique.
Jacques Chirac a bien dû espérer que ses adversaires échouent.
Je trouve extraordinaire cette classe politique. Pour la première fois depuis 1959, au deuxième tour des présidentielles, aucun des deux partis, de la droite républicaine ou de la gauche républicaine, n'était au second tour. Ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que les gens n'ont pas jugé positif leur bilan. Eh bien, laissons le temps à la nouvelle équipe de montrer si elle est capable d'avoir un bilan positif.
Et on rappelle, vous avez voté Emmanuel Macron ?
J'ai voté Emmanuel Macron,
au premier tour ?
Au premier tour, oui.
Au premier tour, au deuxième tour, donc je le rappelle. Dans le dernier chapitre de ce livre, tu le raconteras... Même absolument, je le rappelle, tu le raconteras plus tard, donc chez Robert Laffont. Vous évoquez en quelques lignes... Mais c'est assez poignant, la solitude de Jacques Chirac, dont vous dites qu'elle va au-delà de celle inévitable de l'homme d'État. Il m'est toujours apparu étrangement seul au milieu des siens.
Oui, c'est une des caractéristiques de ce personnage qui m'a toujours semblé un peu ailleurs. Probablement parce que la politique, contrairement à l'image qu'il véhicule, n'est pas fondamentalement ce qu'il recherchait.
Vous voulez dire qu'il peut avoir subi aussi, en partie, la vie politique ?
Je pense qu'il s'est laissé entraîner, il a voulu.
Par son ambition.
Mais dans le fond, le fort intérieur de cet homme, il y a autre chose. Et cette autre chose, je le recherche depuis 10 ans, c'est à la fois une interrogation fondamentale sur l'homme, sur la culture, sur un monde sans frontières. Cet homme, il est seul face à sa propre réflexion. Et c'est pour ça que le cercle des gens qui sont autour de lui sont assez faibles. Maintenant qu'il ne fait plus de la politique, les politiques sont partis, c'est toujours comme ça. Mais il reste quelques intellectuels qui sont là et qui ont compris que cet homme était à la recherche d'autre chose.
On est dans les coulisses du RPR, vous nous y emmenez dans votre livre, de l'Assemblée que vous présidez aussi, avec une belle brochette de personnalités. Il y a un personnage central, outre Jacques Chirac, qui est omniprésent, c'est Philippe Séguin. Gérer Séguin est une entreprise délicate, tout dégénère très vite, c'est sa façon de séduire et de détruire, écrivez-vous.
Oui, je disais toujours qu'il y a, il y a deux images. Vous avez l'image de Séguin qui était un orateur extraordinaire, un sens de l'État, mais avec une obsession, c'est de se détruire. D'être de mauvais caractère, il n'a pas eu le destin politique.
Par son tempérament, ses colères sont
célèbres.
Probablement
qu'il s'explique par sa naissance, ses origines, etc., et qui ne peut pas... chaque fois que je le voyais dans les réunions avec Chirac, je dis, mais calme-toi, n'agresse pas. Et s'il n'a pas eu le destin qu'il aurait dû avoir, c'est probablement à cause de lui. Il aimait se détruire.
Et vous racontez effectivement...
Ces hommes et ces femmes, ces échecs... ils s'aiment... par leur destruction.
Votre haine contre Nicolas Sarkozy est connue, vous l'avez déjà consacré des chapitres entiers. Perpétuellement en mouvement, rarement sincère, toujours dans le calcul, etc. Plus loin dans le livre, vous le traitez de petit caïd. C'est pas un peu court comme jugement ?
Non. D'abord, dans ce que je disais, dans ce que je ne pouvais pas dire le livre précédent, j'ai expliqué longuement. Là, vous avez pris un moment où... Nous avons eu une agression.
Oui, le petit caïd, c'est quand il vous engueule,
mais
pour dire les choses.
Je reconnais parfaitement, dans un autre passage, un peu avant, que cet homme est un personnage assez fascinant, qui sait parler, c'est un orateur de talent, il a une espèce de dynamisme, une réponse à tout, et qu'il a, à un moment de l'histoire du RPR, rassemblé celles et ceux qui doutaient.
On retrouvera Édouard Balladur, aussi mystérieux, qui vous inspire de la méfiance, Michèle Alliot-Marie, qui séduit autant qu'elle exaspère, Jean-Pierre Raffarin, que vous aviez traité un jour de petit boutiquier dans Paris Match. On retrouve tout ça dans le livre. Et puis, pour finir, on conclut...
Madame, c'est sur les notes prises au jour le jour.
Absolument, c'est un journal. Et vous rappelez que c'est l'Europe, finalement, dans ces années-là, qui commence à fractionner la droite. Et vous ne vous en êtes jamais sorti, pour conclure.
Absolument. Et ce débat entre l'Europe des nations ou la supranationalité, sous des formes différentes, réapparaît à chaque fois.
Merci beaucoup, Jean-Louis Debré, d'avoir été avec nous ce matin. Tu le raconteras plus tard. chez Robert Laffont, Souvenir, la vie de la droite. C'est un journal de 95 à 2007. Merci à vous.
Merci. Et on a compris que la forme du journal permet beaucoup de choses. Sur Les Républicains, je ne comprends pas un parti qui veut rassembler, qui exclut, vient de nous dire Jean-Louis Debré. Jean-Louis Debré qui nous confirme avoir voté Macron aux deux tours de la présidentielle. Et on conclura avec cette phrase, le gaullisme est parti avec le général de Gaulle. Merci à tous les deux. L'interview est à retrouver sur le site rtl.fr.